A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup, j'ai un peu le temps quand j'ai un rendez-vous, je me dis, voyons voir demain, comment est-ce que je vais m'habiller? Dans quelle pièce est-ce que je vais rentrer? Qu'est-ce qu'on va remarquer quand je vais rentrer? Est-ce que je vais enlever mon manteau ou pas? Est-ce que je vais m'asseoir ou pas? Si je vais chez des amis, je sais qu'on va voir les chaussures, je fais attention aux chaussures. Si c'est dans une soirée qui est bondée, je vais mettre n'importe quelle chaussure, de toute façon, on la verra pas. Mais je vais soigner le haut. On va me voir arriver de loin, de près. Est-ce que je vais descendre de voiture? Est-ce qu'il y a un éclairage? Mais c'est une mise en scène, la mode. C'est un rôle qu'on joue avec ses vêtements.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes. Parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité une journaliste qui connaît tout des défilés et du monde de la couture. Viviane Blassel a résumé pendant des années les Fashion Week parisiennes avec sa voix si envoûtante et un point de vue toujours parfait. Aujourd'hui, elle officie pour TV5 Monde. Bonjour Viviane.
Bonjour.
Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir dans le chiffon.
C'est partagé. C'est partagé parce que j'ai beaucoup de curiosité, de respect pour toutes les femmes dont vous faites partie, qui d'abord aiment la mode, qui savent aimer la mode et qui ont le courage parce que c'est, d'entreprendre des choses nouvelles pour en parler. S'il n'y avait pas des femmes comme vous, franchement, tout ce qu'on a fait n'aurait pas de sens. Il faut que ce soit repris par des gens qui vous suivent.
Ouais,
donc
très,
j'ai tout autant
touchée.
De... Pas d'admiration, c'est un grand mot, mais j'ai tout autant de respect pour ce que vous faites.
Merci.
Je vous prie.
Il m'a été difficile de résumer votre carrière tant elle est remplie.
Oui.
Parce qu'avant d'être journaliste de mode... Vous avez fait de la radio, vous avez fait bien d'autres choses. Vous pouvez me faire un petit résumé?
Eh oui, alors, on va remonter. Donc, j'ai d'abord fait une licence de lettres et puis ensuite, j'ai pris des cours de théâtre.
Oui,
chez Tania Balachova. J'ai rencontré Pierre Arditi. J'ai joué dans pas mal de pièces. J'ai tourné avec Jean-Luc Godard. J'ai tourné avec Nadine Trintignant, avec beaucoup de gens. J'ai joué avec Romain Bouteille. J'ai fait les pièces de Claude Régis où j'ai joué avec Rochefort, avec Marielle, avec Delphine Seyrig. Enfin, avec des gens absolument éclatants. Et puis, un jour, Pierre Arditi a dû séduire un journaliste d'Europe 1 qui lui a dit « Tu devrais faire de la radio ». Et moi, comme je m'ennuyais, j'ai dit « Bah tiens, je vais tester ma voix ». Et quand je suis arrivé, j'ai enregistré, on m'a dit « Bougez pas, il y a quelque chose ». Et je suis resté 20 ans à Europe 1. Ça, c'était première partie de la carrière. Et puis après, au bout de 20 ans ou 22 ans, je me suis dit « Je vais quand même pas mourir ici à Europe 1, il faut quand même que j'aille voir ailleurs ». Et comme tous mes copains qui étaient Moujotte, Dacier, toute la bande partaient à TF1, je les ai suivis à TF1. Voilà comment ça s'est fait. Entre-temps, c'est vrai que j'ai écrit des livres, quelques ouvrages, pas terribles. Et donc, je suis arrivé à TF1. D'abord, j'ai fait une revue de presse tôt le matin, debout à 4 heures. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et après, quand la dame qui faisait la mode, qui était Christiane Delacroix, est partie, j'ai dit, tiens, ça, c'est pour moi. Et puis voilà, j'ai commencé la mode.
Et vous êtes devenue la voix de la mode dans les journaux de TF1.
Oui, pendant 20 ans.
Et pourquoi vous êtes dit, c'est pour moi? La mode, c'est pour moi.
Parce que j'aimais beaucoup ça. Et parce que j'avais envie de montrer une certaine vision de la mode que j'avais, qui ne concernait pas que les vêtements. Enfin, ça concernait les vêtements, mais pour moi, la mode, ça touchait à tout. Ça touchait à l'économie, ça touchait à la sociologie.
Bien sûr.
Ça touchait à l'état d'esprit d'une société donnée à un moment donné. Ça touchait à la psychologie, à la façon dont on s'habille, on dit qui on est, à la façon dont on s'habille, on dit comment on veut communiquer avec les autres. Et je m'étais dit, tiens, en faisant cette rubrique, si j'aimerais montrer la mode de cette façon-là. Certes, il y a les défilés, mais pourquoi il y a des rayures? Pourquoi on s'habille comme ça? Quelles sont les références avec les événements qu'on est en train de vivre? C'est ça qui m'intéressait. C'était d'expliquer pourquoi on s'habillait et ce que ça voulait dire de s'habiller.
Mmh. Est-ce que vous avez lu des livres en particulier ou c'était vraiment de l'improvisation ou
non,
des recours, des interviews, des rencontres? Comment vous fournissiez vos reportages?
Mais, j'avais pas lu spécialement des choses, sauf peut-être des ouvrages ou de psychologie ou de sociologie. Qui m'intéressait, et puis de moi-même. Alors, c'est probablement, on a tous, comme vous avez eu, un coup de foot, un domaine où tout à coup, on se sent à l'aise, on se sent bien, et je sais pas si c'est un don, mais je repère assez facilement les gens. Au fond, je sais assez voir ce qu'ils me disent, surtout quand ils parlent pas. Et c'est ça, je crois, qui m'a fait travailler. Mais j'ai pas lu d'ouvrage en particulier, ni rencontré personne.
C'était maintenant, au feeling.
Oui, c'est au feeling. Maintenant, j'en lis, c'est vrai que comme vous, je dévore Vigarello, je dévore tous ces gens-là. J'étais plus attiré, disons, par la sociologie, au fond, que par le vêtement. Encore que je l'aime aussi beaucoup, mais c'était surtout la sociologie qui m'intéressait.
Que pensez-vous de la mode aujourd'hui?
C'est-à-dire les vêtements ou la façon dont...
Les deux. Vaste sujet.
Vaste sujet.
Bon, on va commencer déjà par les Fashion Week.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous les suivez toujours, pardon?
Alors, je suis toujours les Fashion Week, mais... Alors, je vais faire un couplet de genre, c'était pas pareil. Quand j'ai fait la mode, je l'ai choisi aussi parce que c'était le dernier bastion de liberté qui restait. C'est-à-dire qu'en politique, il y a des pressions, le cinéma, beaucoup de pressions. Or, la mode, on faisait ce qu'on voulait à l'époque. On voulait rencontrer Karl Lagerfeld, Givenchy, machin, on les avait tout de suite. Il n'y avait aucun problème. On allait dans tous les showrooms, on regardait les étapes de la création, on ne demandait pas à montrer patte blanche. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, il y a des plans médias. Maintenant, c'est très sous contrôle.
Très codé.
Et surtout, ce que j'entends, moi, c'est le bruit du tiroir-caisse. Disons qu'avant, il pouvait y avoir des créateurs qui tentaient des choses dans leur défilé, des choses qui étaient quelquefois importables, qui faisaient rire, etc. Mais ils tentaient. Aujourd'hui, on sent qu'ils ne tentent plus. Ils n'osent pas. On sent que déjà, il faut que ça soit vendu. Avant même que ça soit créé.
Now, buy now.
Voilà, exactement.
Regardez, vous achetez.
Exactement. Donc, c'est, disons qu'il y a une liberté en moins et une création en moins.
Et cette pression qu'on met sur les directeurs artistiques, beaucoup se plaignent du rythme des défilés. Qu'est-ce que vous en pensez?
A beaucoup de mal. Non, mais parce qu'on les traite. Alors, il y a deux choses avec les créateurs artistiques. Soit on les traite comme des footballeurs, c'est-à-dire qu'il y a un mercato des créateurs, et puis effectivement, ils sont pressurés comme. D'ailleurs, beaucoup craquent. Ils sont très entourés, mais ils sont extrêmement pressurés. Donc, du coup, il n'y a plus cette liberté, cette disponibilité à dire tiens, ce que faisait Albert Elbaz longtemps, ou Lagerfeld, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Maintenant, c'est plus ça du tout. On sent que c'est gambergé à l'avance. Tiens, on va aimer le vert, le rouge, le noir, j'en sais rien. Et ces gens-là, comme vous dites, subissent une pression maximale et ça se sent. Mmh. Ça se sent dans des ambiances un peu dures, un peu crispé, ou s'amuser, on s'amuse sur ordre. C'est pas les grandes fêtes qu'il pouvait y avoir avant. D'ailleurs, je l'ai dit, il y en a beaucoup moins partout, les grandes fêtes.
Hein. C'est Chantal Thomas qui m'avait dit qu'on s'amusait moins maintenant.
Ah oui, on s'amuse même plus du tout. Enfin, on a encore quelques vieux copains, mais c'est plus les folies qu'on pouvait faire avant, les grandes fêtes de Kenzo, toutes ces grandes fêtes-là où les hommes se déguisaient avec des tutus roses. C'est totalement inenvisageable aujourd'hui. De même que toutes les grandes aventures de Sonia Riquel ou autres sont totalement impossibles aujourd'hui.
Pourquoi ?
À cause d'argent, parce qu'il faut aujourd'hui avoir pouvoir faire une production qui tout de suite assure, qui tout de suite soit exige énormément de mise de fonds. Il est plus facile aujourd'hui de faire de la haute couture avec 2-3 personnes qui vous achètent des modèles là, que de lancer une marque de prêt-à-porter, c'est quasiment impossible pour cause de finances.
Mmh. Et la mode aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Des vêtements? de l'uniformisation des vêtements.
Est-ce qu'on n'était pas un peu... Je suis assez partagée, parce qu'en même temps, quand je regarde les gens dans la rue, les jeunes dans la rue, je trouve ça plutôt rigolo. Mmh. Je trouve que les nouveaux textiles, les nouveaux tissus ont permis plein de choses. Je trouve qu'il y a... Il y a une nouvelle gestuelle qui est bien accompagnée par le vêtement. Pour les jeunes, pour les gens un peu plus âgés, c'est plus compliqué. Ce qui complique beaucoup la chose, c'est quand même l'argent, le prix. De mon temps, on pouvait se payer de temps en temps un petit extra chez un créateur. Ça. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est hors de prix. C'est pas possible. Les produits qu'on fait en France, les Français ne peuvent pas s'acheter le travail de leurs artisans. C'est impossible. Donc, reste éventuellement le petit créateur de quartier. Alors, reste ces enseignes qui, pour moi, sont pain béni, c'est-à-dire Zara, Uniqlo...
Pourtant, très, très critiquées en ce moment.
Ah oui, moi, je les adore. Mm-hmm. Ah, moi, je passe mon temps chez Zara. Je passe mon temps chez Zara parce que, un, j'achète quelque chose, je peux le rendre au bout d'un mois si ça ne me plaît pas.
Oui.
J'échange. Et donc, je peux me permettre de me dire, bon, bah, tiens, ça, je vais acheter ça, 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 l'essayer, le rendre, l'échanger, etc. Joint au fait qu'ils sont malins comme des singes. Et que tout ce qui va être montré dans les défilés, ils le savent déjà, ils sont déjà dans les bureaux de style avant. Mmh. Avant. Et que quand on veut savoir un peu ce qu'il en est du vestiaire, il faut aller chez Zara, on sait tout de suite ce qui va être porté, ce qui est à la mode, ce qu'on va acheter.
Bien sûr.
Et ça, ça c'est pas un béni. Mmh. Mais ça, au passage, ça a tué toutes les marques intermédiaires. Tous les gens...
qui étaient peut-être trop chers aussi, en rapport qualité-prix.
Ils ne peuvent pas autrement. Oui, mais ils ne peuvent pas faire autrement.
Quel est votre style aujourd'hui ?
Ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai décidé, ces temps derniers, en faisant mes garde-robes, de supprimer tout ce qui pouvait être du genre un peu volant, un peu... Hein, et de garder, d'avoir une silhouette genre Catherine Hepburn, même si je ne lui ressemble pas du tout, mais les très longs pantalons, les tailleurs pantalons... portés avec rien en dessous, les longs manteaux, les pulls noirs. Je dois avoir 50 pulls noirs. Comment on pourrait dire ce style-là ?
Très androgyne, peut-être ?
Tout à fait. Tout à fait androgyne, oui, tout à fait. Alors, je joue avec le fait que je suis très grande. Marquez-vous aussi. Qu'on est très grande et que donc on peut se permettre une certaine fluidité dans les vêtements qu'on achète, les grands pantalons larges qui descendent très bas et les grands manteaux très longs. Et je trouve que ça nous fait une très très belle silhouette.
Comment étiez-vous petite fille ?
Alors, petite fille, alors j'adorais les fringues comme toutes les petites filles. J'avais des cheveux longs, des anglaises, je prenais des cours de piano, j'avais des gros nœuds dans le dos. Bon, enfin, ça, c'était la mode, vous imaginez, quand je suis née, les petites filles avaient des anglaises et des gros nœuds dans le dos. Alors, quand j'étais petite fille, je tentais des choses. Je me souviens une fois, j'avais deux nattes. Et puis un jour, j'ai dit, mais pourquoi en faire deux ? Alors, j'ai ramassé les cheveux sur le côté, j'en ai fait qu'une, ce qui à l'époque était totalement... révolutionnaire. Donc, j'aimais beaucoup tenter des choses dans le domaine du vêtement.
Et ado, après ?
Autre particularité, quand quelqu'un était beau, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller lui dire. C'était pour moi une nécessité d'aller dire à une femme, tu es belle et bien habillée. Ça, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Donc, c'est toujours dans le domaine de la beauté que j'ai continué après en faisant la mode. Ado, on n'était pas très révolutionnaire, nous autres. Ado, on avait une blouse à l'école.
C'est vrai.
Déjà et d'une. Pas beaucoup d'argent, les vêtements coûtaient cher, donc on était à peu près... On n'avait pas de pantalon, hein, de mon temps. Pas de jeans, pas de basket.
À quel âge vous avez commencé à porter des jupes, quand vous avez commencé à travailler ? Ou avant ?
Peut-être un peu avant, peut-être vers quand j'ai commencé à faire du théâtre, peut-être.
Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale dans votre, chez vous ?
Il y avait un grand amour des vêtements et surtout un grand amour des vêtements de qualité. Alors, c'était l'époque où les femmes avaient encore leur couturière et se faisaient faire des choses sur mesure, même celles qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et moi, je me souviens des heures que j'ai passées à attendre ma mère qui se faisait faire des robes sur mesure chez sa couturière. Donc, c'était une tradition de choses bien faites, de broderies, de fermetures éclair cousues à la main pendant des heures. C'était une tradition d'artisanat dans le vêtement. Et tricot. Enfin, moi, j'ai appris le tricot avec ma mère. J'ai fait du crochet. Tout ça, on aimait beaucoup.
Votre mère tricotait ?
Ah, ma mère tricotait. Ma mère m'a fait beaucoup de pulls. M'a fait beaucoup de pulls verts. M'a fait beaucoup de choses. Oui, oui, beaucoup.
Il y a eu une vraie transmission familiale au niveau mode ?
En tout cas, j'ai sûrement été influencée par l'amour que ma mère avait des vêtements. Et des sacs et des accessoires qu'elle adorait. Oui, sûrement. Sûrement.
Quel est le meilleur conseil que l'on ait pu vous donner au niveau look ?
Ah, ça, c'est un garçon qui a aussi fait Bérido. Je ne sais pas si vous allez vous le rappeler, il s'appelle Jean-Rémy Domas.
Oui.
Et un jour, Jean-Rémy, je ne sais plus comment il s'est habillé, il m'a dit, mais t'as fini de t'habiller comme une petite fille, assume-toi. T'es grande, vas-y, sois forte, assume un style fort. Ça, c'est le conseil que m'a donné Jean-Rémy et que j'ai suivi après, dans le domaine de la mode. Après, il y en a eu un de Jean-Paul Gaultier, mais que je n'ai pas suivi, qui était que les couleurs qui devaient m'aller, c'était des couleurs nude. Bon, je lui ai demandé s'il était une bonne copine, il m'a dit non, pas forcément. Je n'ai pas suivi le conseil.
Quel rapport entretenez-vous avec votre dressing ? Finalement, il a l'air assez simple, ce rapport.
Ah, je l'adore. Je suis fourré dedans tout le temps. Mm-hmm. Je dors dans mes vêtements. Je
Vous garde... dormez dans vos
oh,
vêtements
bah, quasiment. J'en ai plein à la cave. J'ai tout gardé depuis que je fais la mode. Et j'ai... par moments, je me relève, je me dis, merde, où est-ce que j'ai mis cette pièce-là que j'aimais tant il y a 10 ans ou 15 ans? Donc, je m'en vais farfouiller dans mon dressing. Je ressors des trucs que j'avais complètement oublié que j'avais. Je les réaccessoirise. Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup. J'ai un peu le temps quand j'ai un rendez-vous. Je me dis, voyons voir demain, comment est-ce que je vais m'habiller? Dans quelle pièce est-ce que je vais rentrer? Qu'est-ce qu'on va remarquer quand je vais rentrer? Est-ce que je vais enlever mon manteau ou pas? Est-ce que je vais m'asseoir ou pas?
Donc, ah, vous en pensez fonction... à ça? Est-ce ah, que oui. vous enlevez votre manteau ou pas?
Ah, bah, bien sûr. Ah bah bien sûr, si j'enlève mon manteau, je vais travailler autre chose. Si je vais chez des amis, je sais qu'on va voir les chaussures, je fais attention aux chaussures. Si c'est dans une soirée qui est bondée, je vais mettre n'importe quelle chaussure, de toute façon, on la verra pas, mais je vais soigner le haut. Mmh. Je me dis, voyons voir, est-ce qu'on va me voir arriver de loin, de près, est-ce que je vais descendre de voiture, est-ce qu'il y a un éclairage, est-ce que... Mais c'est une mise en scène, la mode, c'est un rôle qu'on joue avec ses vêtements. Et moi, je m'amuse beaucoup parce que maintenant, j'ai quand même un peu le temps. Mais je prépare ça la veille. Je me dis, bon, voyons voir, quel temps est-ce qu'il va faire? Est-ce que je vais trouver une voiture vite? Est-ce que je vais devoir marcher, pas marcher? Est-ce que mes pantalons trop longs vont traîner dans la pluie ou pas? Je fais attention à tout ça.
C'est votre passé de comédienne qui ressurgit?
Probablement, probablement. Et en tout cas, le vêtement et l'attitude qu'on a dans la vie, on joue tous un rôle. Mm-hmm. C'est un théâtre, la vie.
Donc, quelqu'un qui vous dit, moi, je n'en ai rien à foutre de la façon dont je m'habille, vous la traitez de menteuse ou de menteur?
Non, je pense qu'il est sincère, mais c'est probablement la personne la plus facile à décoder qui soit.
Mm.
Parce que bien sûr que non, ils s'en foutent pas. Même ils s'en foutent pas, ils vont pas aller en pyjama sortir, ils s'en foutent pas de toute façon. Mais quand on dit je m'en fous, alors c'est on, côté un peu brut de décoffrage et en même temps une volonté de se fondre dans la masse pour pas se faire repérer aussi. Enfin, sont des gens très intéressants. En même temps, quelqu'un qui vous dit « je m'en fous », il va pas prendre, quand il a affaire à vous ou à moi, s'il y a des gens un peu spécialistes de la mode, il va pas mettre 10 minutes à vous dire qu'est-ce que tu penses qui pourrait m'aller.
C'est sûr.
À tous les coups.
Tenez-vous compte du regard des autres. Justement, quand vous arrivez comme ça, que vous mettez en scène avec vos vêtements,
Oui.
C'est pour vous ou pour les autres ?
C'est les deux. C'est les deux, mais je effectivement, je tiens compte du regard des autres, tout en me disant, je fais pas ça. Voilà, je fais quand même ce qui me plaît, même si c'est pas, je n'obéis pas aux conventions. Si j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu éclatant, je le mets quand même. C'est ma façon à moi quelque part de dire bonjour. Voilà comment je me présente. Voilà comment vous allez me recevoir et comment.
C'est une forme de respect aussi.
Aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas faux ce que vous dites. C'est vrai.
Quel est le vêtement que vous ne porterez jamais? Que vous avez toujours détesté?
Ah ben le pantacourt déjà. Je hais le pantacourt.
Pantacourt alors qui arrive.
Là.
Ouais, là, c'est ce que je porte. Oh là.
Non mais il est pas si court que ça. Le pantacourt, la jupe culotte.
Mais là, c'est le retour de la jupe culotte. Ah
bah oui, mais je la porte pas. Je supporte pas la jupe culotte parce qu'en plus la jupe culotte, il faut un vêtement. Il faut respecter quoi ? Il faut respecter des proportions. La jupe culotte, les trois quarts des filles que je vois la porter, se regardent pas de dos. Tout d'un coup, je veux dire, on voit une postérieure qui est très mise en valeur, puis cette pauvre jupe culotte qui s'arrête au-dessus du genou, puis après, encore une fois, il y a les chaussures. Mm-hmm. Donc, ça irrite la rétine. Moi, ça m'irrite la rétine qui n'est pas d'équilibre dans une tenue. Voilà. un équilibre. C'est pas une question d'argent, c'est une question de proportion.
Et dans quelle tenue vous sentez absolument irrésistible ?
Ça dépend des jours, mais c'est vrai que, voyons voir, c'est vrai que c'est quand même un pantalon large et un pull, en gros.
C'est votre tenue ADN, en fait.
Oui, c'est vraiment ma tenue ADN, oui. Oui, oui, pantalon large, les mains dans les poches, un pull.
Les mains dans les poches.
Oui, oui. Ça, si un pantalon n'a pas de poche, je ne mets pas. Je mets les mains dans les poches. C'est pour ça que je mets beaucoup les sacs autour en bandoulière, parce que j'aime bien avoir les mains dans les poches. Le maire de Lyon a dit, la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Moi, je dis que le vêtement, une fois qu'on l'a choisi, on doit pouvoir l'oublier absolument. Aussi sophistiquée soit la tenue, c'est pour ça qu'avant, il faut l'avoir bien mâché, bien gambergé. Hein, se dire, voyons voir, quand je m'assois, qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce qui machin, quand je me lève. Hein, et une fois qu'on a bien bordé tout ça, on peut l'oublier.
C'est parfait. Est-ce que ça vous est arrivé d'être habillé un matin et de vous dire, oh là là, non, non, je me suis trompé et là, ça ne va pas du tout.
Oui, puis je remonte et je me change. Ah bah oui. Ah bah, attendez, l'élégance, comme disait Saint-Laurent, c'est une façon de marcher, c'est un rythme. Si je ne suis pas bien habillée, je vais avoir un mauvais rythme. Ça va être heurter ma démarche. Heurtant ma démarche, les gens vont me paraître insupportables. Mmh. Je vais être désagréable toute la journée. Donc, je remonte et je me change.
Est-ce que vous mettez des interdits vestimentaires avec l'âge ? Est-ce qu'à 40 ans, vous avez dit, j'arrête les mini-jupes, à 50
Non, 40, non, mais maintenant, moi, là, oui. Et il y a des choses, d'ailleurs, dont je me suis séparée à regret, mais moi, j'aimais bien avoir effectivement des jupes courtes en cuir, j'aimais beaucoup les mini-jupes. J'adorais la mode cuissarde, mini-jupes, long manteau. Non, ça, je fais pas ça. Je me le permets plus. Je pourrais me le permettre parce que je ne suis pas grasse, mais je veux dire, mon âge fait que je ne mettrais pas ça. Non. Oh, non.
Quel est le vêtement qui sublime toutes les femmes ? Peu importe leur morphologie.
Une robe noire, je crois.
Une robe noire ? La petite robe noire, c'est pas un mythe ?
Oh non. Oh non, non, non. Ah non, ça va vraiment à toutes les femmes. Alors après, on choisit avec manche, sans manche, avec ceinture, sans ceinture. Mais une femme qui a une petite robe noire, ça va vraiment à tout le monde, ça.
Justement, on parle de mythe. Qu'est-ce que vous pensez du mythe de la Parisienne ?
Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus la Parisienne qui le représente. Ce sont les petites Chinoises qui représentent. Vous avez regardé un peu dans les rues ?
Bien sûr.
Les petites Chinoises.
Ah, mais moi, je passe mon temps à mater les gens dans la rue. Donc.
Elles sont nickel. Ouais. Elles sont les petites parisiennes de Kiraz, les petits chapeaux, les petites chaussures, les machins. Ce sont les petites chinoises qui sont les parisiennes. Les parisiennes ne s'habillent plus.
Pourquoi, à votre avis ?
Y a peut-être plusieurs raisons. D'abord, c'est comme quand on est dans une pâtisserie, on ne mange plus de gâteaux. Je pense que comme Paris, c'est la capitale de la mode, donc du coup, les parisiennes s'habillent. Puis ça fait chic de ne pas s'habiller, ça fait des contrastes.
C'est les fortlesses.
Voilà. Elles pensent que ça fait chic, moi, j'aimais bien les gens habillés à l'opéra, j'aime bien les gens habillés pour une soirée. Elles ne s'habillent plus. Il n'y a plus pour les robes haute couture, comme me disent mes copains couturiers, il n'y a plus que le Moyen-Orient. Hein. Un peu la côte est des États-Unis. On m'a dit Londres un peu. Mais Paris, on ne s'habille pas.
Même en soirée maintenant ?
Même en soirée, on ne s'habille pas.
Vous trouvez ça triste ?
Ah oui. Ah oui, oh ben oui, parce que des femmes qui s'habillaient, Alors, il y a une soirée où les gens sont vraiment habillés, c'est la soirée de la mode pour le sida. Alors, toutes les filles tous les créateurs ont leur égérie qui sont, mais belles, habillées avec les dernières créations, créatives et tout. C'est une soirée d'une élégance folle et ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Vraiment.
Vous continuez à être invité dans les Fashion Week ?
Ah oui,
oui,
oui.
Vous y allez toujours avec autant
pas
de plaisir ?
Pas toujours, non. Oui, j'y vais parce que j'ai beaucoup de copains à voir et puis que ça m'intéresse de les voir. J'y vais avec quand même le cœur qui bat un peu moins que quand j'étais à TF1, ça c'est clair. TF1, c'était... les époques étaient magnifiques, mais c'était les époques des grandes... c'était les grandes époques des Cindy, Carla, Naomi, enfin c'était... Il y avait une énergie, un truc incroyable dans les défilés qu'il n'y a plus maintenant. Ça aussi, tiens, les mannequins, vous avez envie de ressembler aux mannequins que vous voyez sur les podiums, vous ?
Non.
Non. Alors, quand on voyait arriver Claudia, quand on voyait arriver Naomi, waouh !
Elles avaient du chien.
Oh, Cindy Crawford, waouh ! C'était magnifique.
Et quand elles souriaient, elles défilaient en souriant, souvent.
Tout à fait. Et elles n'étaient pas maigres.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la maigreur des mannequins ?
C'est-à-dire qu'elles sont... Je les trouve beaucoup trop maigres, ça c'est clair. Je n'aime pas qu'on dise que ça favorise l'anorexie, parce que c'est autre chose, l'anorexie. C'est une maladie et n'est pas anorexique qui veut.
Mais j'ai vu que vous aviez parlé de ça.
Ouais, j'aime pas ça, mais en revanche, c'est vrai qu'elles sont trop maigres. C'est vrai qu'elles prennent des risques qui ne vont pas jusqu'à l'anorexie, mais elles prennent des risques, ne serait-ce que d'avoir une vilaine peau. En même temps, elles sont très jeunes. Hein. C'est des grandes ados qui sont poussées comme ça. Et je ne sais pas pourquoi les créateurs les prennent aussi maigres, mais elles sont trop maigres.
Pour sublimer les vêtements, selon certains.
Oui, mais ils ont tort. Ils ont tort.
L'accessoire, vous me parliez du sac tout à l'heure. Est-ce que l'accessoire était important pour vous?
Oui. Oui, le sac est très important. Ça fait partie d'une tenue. Les gants aussi. J'adore les gants. J'ai toutes sortes de gants de toutes les couleurs que j'ai assortis, ou des noirs et blancs. Ou... Je suis une folle des détails. Je me rends compte que je me fais un relooking tous les jours. Et j'adore les gants, j'adore les sacs, j'adore les écharpes. Les chapeaux, les bonnets, les chaussures, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup.
Et les bijoux?
Non, pas tellement. Le seul que je porte, c'est cette chose-là que j'ai.
Très belle, une très belle bague.
C'est un bijoutier érythréen qui s'appelle Mohamed et qui travaille à la Fabrique Nomade. Et la Fabrique Nomade, c'est une fabrique qui veut aider les réfugiés à continuer à pratiquer leur artisanat. Mm-hmm. Et donc, parmi eux, il y avait Mohamed, et j'ai donc acheté cette bague à Mohamed.
Très chic. Quel est votre dernier achat?
J'ai un peu peur que ce soit cette bague. Quand j'ai dû faire un reportage à la Fabrique Nomade. Non, le tout dernier, c'est hier, j'ai acheté un manteau chez Zara. Un grand manteau noir, très long. C'est probablement mon quatrième manteau noir, mais j'en avais pas un aussi long, voilà.
Et votre prochain achat, est-ce que vous avez une idée? Vous recherchez quelque chose?
Je sais pas, non, mais là ça va être l'époque des cadeaux de Noël, donc je vais quand même penser aux autres, penser à moi, mais au passage, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore de... Non, j'ai rien en ligne de mire pour maintenant. Mais ça peut venir, ça vient très très vite.
Oui, c'est ça, un petit tour chez Zara et bam.
Et bam.
Quelle est votre définition de l'élégance? Tout à l'heure, vous m'avez cité Saint Laurent.
Je pense que c'est vraiment ce qu'il a dit et ce qu'a repris aussi Vigarello, si tant est que c'est une définition, c'est vraiment une façon de marcher. C'est une adéquation entre ce qu'on est profondément et ce qu'on projette. Donc il y a à ce moment-là une unité et qui fait que, un, vous êtes bien dans votre peau, mais deux, vous êtes reçu, vous ne blessez pas la rétine de l'autre. Encore une fois, je reparlais tout à l'heure des proportions et d'équilibre.
Avec la jupe culotte.
Par exemple. Et quand on projette ce qu'on est vraiment, quand il n'y a pas cassure entre les deux, alors vous êtes en harmonie avec vous, en harmonie avec le mouvement, en harmonie avec les autres. L'élégance, pour moi, c'est ça, c'est vraiment une harmonie.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'expression « être à la mode » ?
Qu'est-ce qui emploie ça maintenant ? Plus personne ne le dit.
Si, on peut le dire, ça. On peut le dire. Dans la presse, où les gens le disent, dans le langage courant.
Ils disent ça à la mode.
Ah, ça, c'est la mode.
J'écoute, ça m'agace.
Et l'évolution de la presse féminine ?
Elle fait plus de mode, la presse féminine. Enfin, si on compare par rapport avec les journaux, encore une fois, que j'ai connus comme Le L, on se précipitait comme tous les, je ne sais plus quoi, jeudi ou vendredi.
Il y avait c'était les lundis.
Les lundis. Il y avait les prix, il y avait les boutiques, etc. On y allait dans la seconde. Là, je vois des magazines de mode, je ne sais même pas, on ne voit rien. Alors, le photographe a fait des belles choses avec des fondus, mais on ne voit pas le vêtement. Donc, je pense qu'elles ont laissé tomber ça, pensant que d'autres avaient pris le relais, j'imagine. Et elles s'occupent plus de faits sociétaux que de mode, je crois. Ben, je crois. Hein.
Vous ne trouvez pas que ça devient un peu triste?
C'est complètement consternant, oui. Ça, c'est clair que. Mais oui, mais on a tellement mauvaise conscience de tout. On a mauvaise conscience de s'habiller, on a mauvaise conscience de boire, on a mauvaise conscience de rigoler, on a mauvaise conscience de fumer. On a mauvaise conscience de tout. Donc, elles sont forcément obligées de prendre l'air du temps. Mm-hmm. Vous, pas. Vous avez une indépendance avec cet outil qui vous appartient. Mais les autres sont obligés de crier, à hurler avec les loups.
Puis elles dépendent des annonceurs aussi.
Elles dépendent des annonceurs qui sont d'une frilosité absolument invraisemblable, qui retirent leur budget pour un oui, pour un non.
Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir des influenceuses ou des influenceurs? Toutes ces femmes qui finalement prennent la place d'icônes de mode.
Bah oui, vous avez trouvé la réponse, c'est qu'elles ont pris la place. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a plus tellement de jeunes femmes qui veulent assumer le rôle d'icône de mode parce que ça se fait pas. Donc vous avez presque trois quarts du temps des actrices qui sont des girl next door qui n'inspirent personne. Trouvez-moi dans le cinéma français une fille belle, lookée, qui donne envie de s'habiller comme elle. Personne. Donc les influenceuses ont pris la place et quelque part tant mieux. Mm-hmm. Parce qu'après tout, elles imposent pas un achat particulier. Elles ont souvent des idées. Moi, je trouve ça plutôt sympathique.
Mm-hmm. Alors, vous avez le droit à une seule réponse.
Oh merde.
Si vous étiez une couleur.
Noir.
Si vous étiez une forme de pantalon.
Large et long. Large et vasé. Avec des poches.
Oui, j'ai compris ça. Si vous étiez une chaussure.
Une paire de bottes Hermès.
Si vous étiez une matière.
Oh, comment s'appellent ces matières que j'aime tellement Bon, bah, tant pis, je vais dire ébène.
Quelle est la saison qui vous inspire le plus pour vous habiller?
L'automne.
Si vous étiez un vêtement, tout simplement.
Un manteau simplement, un grand manteau noir.
Un grand manteau, comme vous pouvez manteau. Vous mettre nu en dessous, ah, bah, ça abîme.
Je ne fais
abîme.
Pas, ne t'aimer.
Si vous étiez un accessoire de mode.
Un sac Delvaux.
On n'en voit plus beaucoup.
Bah, ils vont se relancer là.
Oui, oui.
Un sac Delvaux. Ouais.
Si vous étiez une héroïne.
Moi? Non, attends. Qu'est-ce que j'aime?
Et pourquoi pas?
Non, mais qu'est-ce que j'aime énormément? Une héroïne. Rosa Parks.
Un adjectif qui vous caractérise?
Inattendu.
Merci Viviane.
C'est moi qui vous remercie, c'était un bonheur.
Je tiens à remercier aussi le magazine Gradia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues.
Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Véronique, Tristram.
Si on n'a pas un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans les bons accessoires. On peut finir le look avec des accessoires et être outstanding, fashion, avec les accessoires.
Pauline Bishop.
Je suis mariée en t-shirt petit bateau blanc quand même.
En petit bateau à la mairie.
Élise Larnicole.
Pour toi, l'élégance n'est pas forcément liée aux fringues. C'est peut-être avant tout l'humain.
Oui.
Le comportement, le caractère, l'éducation.
Oui. Après, évidemment, si tu t'habilles comme un cul, enfin ça.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.